RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et mon Indonésie. La revue suivante, magazine culturel, qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes dans le cadre de l'anniversaire de la ville de Jakarta. Chers amis, c'était le programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre du Tourisme est prêt à accueillir les Jeux Asiatiques 2018. Le tourisme de Sulawesi du Sud-Est fait intensivement à la promotion à Paris. Le Royaume-Uni facilite les procédures de demande de visa pour les étudiants indonésiens. L'Indonésie invite la Corée du Sud à renforcer la coopération maritime. Le gouvernement indonésien ne s'inquiète pas de la guerre du commerce. L'amélioration de la structure des exportations pour surmonter la guerre commerciale. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie a préparé des paquets touristiques pour accueillir les touristes des Jeux Asiatiques 2018 qui se dérouleront du 18 août jusqu'au 2 septembre 2018 à Jakarta et à Palembang. Le ministre du Tourisme, M. Arief Yahya, a déclaré jeudi au ministère du Tourisme à Jakarta qu'environ 150 000 touristes viendront liés à la mise en œuvre des Jeux Asiatiques 2018.
Kita sudah lebih setahun yang lalu mempersiapkan untuk pariwisata itu 7 destinasi yang kita jual, tentu yang dekat dengan.
Nous avons préparé il y a un an pour le tourisme de cette destination. Nous vendons bien sûr des sites touristiques situés près de Jakarta et Palembang. Et il y a 60 forfaits que nous vendons, le plus souvent bien sûr Jakarta, dont nous sommes prêts et pour les touristes. Nous débattons entre 100 000 jusqu'à 200 000 qui viendront en spectateur. Mais nous décidons finalement 150 000, qui est le plus naturellement la Chine, proportionnellement. Mais cela dépend du football, surtout celui qui obtient la finale dans le football. Dans la même occasion, le directeur de la promotion de la région de Grand Chine, Vincentius Jemadu, a déclaré que les touristes chinois devraient être le plus grand touriste étranger à venir aux Jeux Asiatiques 2018.
Nah, tanggal 29, kedutaan besar Tiongkok bersama Kemenpar akan buka suatu counter di bandara.
Il y a un invité d'accueil spécial à l'aéroport Soekarno-Hatta qui sera inauguré le 29 juin. L'ambassade de Chine avec le ministère du Tourisme ouvriront Ang comptoir au terminal 3 de l'aéroport de Soekarno-Hatta, spécifiquement pour accueillir les touristes chinois. Là-bas, l'ambassade de Chine a préparé divers conseils pour anticiper l'afflux de la délégation de la Chine, parce qu'il y a la possibilité que dans ces jeux asiatiques, la plus grande délégation vient de Chine. Le bureau d'accueil spécial est également préparé pour les touristes de Chine qui ne peuvent pas parler anglais. Vincentius a ajouté qu'en plus de Jakarta et Palembang, le ministère du Tourisme se prépare également à Bali et Yogyakarta en tant que destination touristique pour les touristes étrangers qui viennent en Indonésie lors que les Jeux Asiatiques 2018. 20 tour opérateurs français participent à la promotion du tourisme intitulée CIP Sud-Est plongé dans Inexplore, organisé par le gouvernement de la ville de Kendari en coopération avec la communauté urbaine de La Rochelle en tant que ville partenaire depuis 2011. Le chef du bureau de tourisme de Paris, Ovito Eka Monkar, a déclaré à Antara Londres jeudi que cet événement a eu lieu avec l'aide de Vito qui a eu lieu à l'hôtel Sofitel La Défense Paris. La promotion vise à introduire les avantages de Sulawesi du Sud-Est comme une nouvelle destination touristique en Indonésie aux agences de voyage français. Cette promotion fait partie des activités de formation organisées CDA La Rochelle pour 7 fonctionnaires du sud-est de Sulawesi. Selon Eka, depuis les dernières années, la visite des touristes français en Indonésie augmente et maintenant beaucoup de gens qui cherchent de nouvelles destinations dans ce pays, en plus de Bali. Comme l'une des destinations touristiques de New Bali, Wakatobi et Sulawesi du sud-est, en général, peuvent être une destination touristique alternative pour les touristes français qui veulent connaître l'Indonésie de plus profondément. Le service de visa et d'immigration du Royaume-Uni facilite la procédure de demande de visa pour les étudiants indonésiens en réduisant l'exigence en matière de documentation pour les demandeurs de visa étudiants de niveau 4. L'ajustement est effectué en vertu des modifications apportées aux règles d'immigration du Royaume-Uni qui entreront en vigueur le 6 juillet, comme l'a révélé un communiqué reçu par l'agent de presse Antara mardi le 19 juin. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, a déclaré que les changements signifient que les étudiants indonésiens ne seront plus tenus de fournir des preuves de finances, de qualifications ou de connaissances sur leur langue anglaise avec leur demande de visa. Il a ajouté que la simplification du processus de visa au Royaume-Uni pour les étudiants indonésiens était une excellente nouvelle pour des milliers de jeunes qui commencent des cours cet automne et pour ceux qui ont l'intention d'étudier au Royaume-Uni à l'avenir. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'importance du secteur maritime pour l'avenir et appel à améliorer la coopération maritime pour faire face aux défis a été souligné par l'Indonésie à la 22e dialogue ASEAN-République de Corée à Séoul jeudi 21 juan. José Tavares, le directeur général de la coopération ASEAN, le chef de la délégation de la République d'Indonésie et le président du SOM ASEAN-Indonésie à la réunion a déclaré que les dommages à l'environnement marin et surpêche étaient le défi majeur dans le monde maritime qui doivent être résolus par la coopération entre les nations. Selon Tavares, l'ASEAN et la Corée du Sud doivent travailler ensemble à travers le mécanisme dirigé par l'ASEAN pour assurer que la coopération du secteur maritime peut garantir la durabilité et un meilleur avenir. À cette occasion, Tavares a également exprimé l'engagement et le leadership de l'Indonésie dans le domaine maritime, l'un d'entre eux par la déclaration des dirigeants de EAS sur le plan d'action régional pour la lutte contre les débris marins en plastique en tant que document de dirigeant des États membres du sommet de l'Asie de l'Est en novembre 2018. Le ministre coordinateur de l'économie de l'Indonésie, M. Darmin Nasution, estime que l'Indonésie ne devrait pas trop se préoccuper de la menace d'une guerre commerciale. L'Indonésie doit se concentrer sur l'amélioration du déficit de la balance commerciale en 2018. Sur la base des données du Bureau central des statistiques, la balance commerciale de l'Indonésie de janvier jusqu'à avril 2018 a enregistré un déficit de 1,31 milliard de dollars américains. Comme écrit Republika Online, le ministre Darmin Nasution a admis à Jakarta jeudi, l'objectif du gouvernement lié au commerce était de surmonter le déficit. Il a expliqué que les importations ont fortement augmenté ces derniers temps parce qu'elles sont influencées par la préparation de l'Eid al-Fitr. En outre, les exportations connaissent également un ralentissement dû principalement aux politiques de certains pays, comme l'Inde qui impose des droits d'importation élevés sur les produits dérivés de l'huile de palme. Néanmoins, si l'Indonésie est touchée par des guerres commerciales, comme les inondations des produits en acier en provenance de Chine, en effet, le gouvernement est également prêt à mettre en œuvre une politique anti-dumping. Le ministre coordinateur de l'économie, M. Darmin Nasution, a déclaré que l'amélioration de la structure des exportations nationales était importante pour surmonter l'impact des guerres commerciales potentielles engagées par les pays développés, comme déclaré Darmin Nasution à Antara à Jakarta jeudi. L'Indonésie devrait chercher des opportunités de la guerre commerciale afin que les performances commerciales nationales ne perturbent pas la projection de la croissance économique globale. Par conséquent, l'amélioration de la structure des exportations nationales est importante afin d'améliorer les performances commerciales nationales et le déficit du compte courant qui était l'une des causes de la dépréciation de la rupia qui est en train de diminuer. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, après le journal, comme d'habitude, je vous présente maintenant le commentaire et pour le titre « Pour Israël, l'Amérique quitte le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ». Après avoir déçu de nombreux pays il y a quelque temps en déplaçant son ambassade en Israël à Jérusalem, les États-Unis ont choqué à nouveau la communauté internationale mardi dernier. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Nikki Haley, a annoncé que son pays se retirait du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a accusé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'avoir été partial à l'égard de la question de l'allié traditionnel américain Israël. Les États-Unis ont critiqué les actions des membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui sont considérés comme hypocrites. L'organisme basé à Genève a été fondé en 2006 pour appeler et protéger les droits de l'homme dans le monde entier, mais ses déclarations et rapports sont souvent contradictoires avec les priorités américaines. Avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, l'ambassadrice Haley a défendu le refus du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au motif que l'appel américain à la réforme est ignoré. Mais les deux insistent pour que les États-Unis continuent à diffuser la mise en œuvre des droits de l'homme pour de nombreuses personnes. Selon les États-Unis, une réforme est nécessaire pour former un conseil de plaidoyer sérieux traitant des droits de l'homme. L'annonce de Washington de démissionner est survenue après que les responsables du Conseil des droits de l'homme de l'ONU aient critiqué les États-Unis pour avoir séparé les enfants migrants de leurs parents après leur passage au Mexique. Ce qui est intéressant, Après des protestations de plusieurs côtés, le président américain Donald Trump a publié un ordre exécutif pour arrêter la politique. Cependant, l'ambassadrice Nikki Haley a déclaré que le Conseil des droits de l'homme a été un protecteur des abuseurs des droits de l'homme, tandis que l'appel des États-Unis pour la réforme a été ignoré. Il a également qualifié le Conseil des droits de l'homme de parti pris, inamical et d'une organisation anti-israélienne qui trahit sa mission comme protecteur des droits de l'homme. En tant qu'État défendu, l'Israël est naturellement très reconnaissant envers les États-Unis. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a qualifié cette décision d'audacieuse. La reconnaissance était transmise via son compte Twitter mercredi. Le gouvernement indonésien qui défend les droits de l'homme regrette profondément l'initiative américaine. Selon le ministère indonésien des Affaires étrangères, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est un forum de coopération multilatérale et d'engagement de la communauté internationale à défendre la protection des droits de l'homme dans le monde entier. Ironiquement, les États-Unis, qui se sont toujours déclarés comme pays démocrate et protecteur des droits de l'homme, ont quitté le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est fondé pour protéger les droits fondamentaux de tout être humain, simplement parce qu'ils veulent défendre son allié Israël. On devrait se demander si les États-Unis méritent encore d'être appelés un État qui défend les droits de l'homme. Chers lecteurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 22 juin. Le 22 juin 1945, la bataille d'Okinawa s'est terminée. La bataille d'Okinawa, nom de code opération Iceberg, est une bataille dans les îles Ryukyu, Okinawa, qui est enregistrée comme le plus grand assaut amphibie du Japon dans la guerre du Pacifique, la Seconde Guerre mondiale. La bataille dura 82 jours du début d'avril au 22 juin 1945. Grâce à une longue campagne de stratégie de saut d'île, les Alliés se rapprochèrent progressivement d'archipel japonais. L'île Okinawa est la seule grande île japonaise située à 550 km du Japon. Okinawa est prévue comme une base d'opération aérienne pour l'invasion prévue de la partie continentale du Japon, nom de code Operation Downfall. La bataille Okinawa a infligé les plus grandes pertes dans la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a subi des pertes de plus de 100 000 soldats tués, capturés ou se sont suicidés. D'autre part, 65 000 soldats alliés ont été tués ou blessés. Les attaques à la bombe atomique contre Hiroshima et Nagasaki ont forcé les Japonais à capituler quelques semaines après la fin de la bataille d'Okinawa. Le 22 juin 1945, le comité 9 dirigé par Sukarno a accordé la charte de Jakarta. La charte de Jakarta contenait 5 points qui allaient devenir les Pancasila, les 5 principes de base de l'État indonésien. Croyance en Dieu avec l'obligation pour les musulmans d'observer la charia, humanisme juste et civilisé, unité de l'Indonésie, démocratie dirigée par un esprit de sagesse dans la délibération représentative, justice sociale pour tout le peuple indonésien. La charte Jakarta est signée par Sukarno, Hatta, Alexander Andris Maramis, Abikusno Chokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim et Muhammad Yamin. Au moment de la validation de la Constitution, le 18 août 1945, par le PPKI ou Comité préparatoire pour l'indépendance de l'Indonésie, fondé le 7 août 1945 comme successeur du BPUPKI, le terme de préambule est remplacé par celui d'ouverture, après que le premier principe ait été changé simplement en croyance en Dieu unique. Les fameux sept mots, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, soit avec l'obligation pour les musulmans d'observer la charia, avaient été supprimés. La constitution indonésienne ne comportait ainsi plus aucune référence à l'islam. La suppression de la référence à l'islam, d'un premier point, avait été effectuée par Hatta sur la proposition de Maramis, après consultation avec Teku Muhammad Hassan, Kasman Singo Dimejo et Ki Bagus Hadikusumo. Le 22 juin est l'anniversaire de Jakarta. L'anniversaire de Jakarta est célébré tous les 22 juin. La détermination du 22 juin est faite par Sudiro, le maire de Jakarta, pour la période 1953-1958, référant au manuscrit intitulé de Jayakarta à Jakarta, il a deviné que le 22 juin 1527 est une journée qui est la plus proche de la construction de la ville de Jayakarta par Fatahillah. Le texte a ensuite été soumis par Sudiro au conseil des représentants de la ville provisoire qui détermine que le 22 juin 1527 est la fondation de la ville Jakarta. Depuis lors, chaque 22 juin, le Parlement régional de Jakarta organise une session spéciale pour commémorer la fondation de la ville Jakarta. Maintenant, la fixation de la date provoque les différents débats. Certains humanistes affirment que Jakarta devrait anniversaire le 3 septembre. Elle se réfère à la promulgation de Jakarta comme municipale le 3 septembre 1945 par le premier président de la République d'Indonésie, Soekarno. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec mon Indonésie ayant pour le titre le ministère de l'Industrie facilite les PME au Salon international du batik en France. Le ministère de l'Industrie a facilité les PME à une exposition internationale intitulée « Batik l'Indonésie pour le monde » au siège de l'UNESCO à Paris en France. L'un des participants est le batik Azmia. Les PME du batik de la classe premium viennent de la province de Jambi qui a été en mesure de pénétrer le marché européen. L'exposition qui s'est tenue du 6 au 12 juin 2018 a été organisée par l'UNESCO dans le cadre de la commémoration de 9 ans du batik indonésien dans la liste des représentants du patrimoine culturel en tant que chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. C'est ce qu'a affirmé la directrice générale des PME du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsih, à Jakarta, lundi. Elle a confirmé que le but de l'Indonésie d'organiser le batik pour le monde est de montrer au monde de la richesse culturelle nationale du batik, la compétence des artisans et la continuité de l'industrie indonésienne du batik. Selon Gati, le batik indonésien montre de plus en plus son identité dans diverses expositions mondiales. Elle a expliqué, L'exposition de cette année, il y avait 100 tissus de batik de qualité supérieure exposés par des artisans des PME de batik de diverses régions. En 2015, le ministère de l'Industrie a attribué le prix d'un village d'un produit ou OVOP à 3 étoiles pour la catégorie de batik à Batik Azmia. Selon Gati, Rumah Batik Azmia est un PME de batik qui était célèbre pour l'utilisation de couleurs classiques et de motifs uniques. La chose qui distingue le batik Azmia avec d'autres est le processus de batik par plus de 6 fois de la coloration, si bien qu'il résulte une couleur intéressante. Gati a ajouté que l'industrie du batik a joué un rôle important dans l'économie nationale. En tant que leader du marché, l'Indonésie a dominé le marché mondial du batik et est devenue la force motrice de l'économie régionale et nationale. En outre, l'industrie du batik a fourni des milliers d'emplois et contribué aux devises du pays. Le ministère de l'Industrie a noté que la valeur des exportations du batik et les produits de batik en 2017 a atteint plus de 58 millions de dollars américains. Les principaux marchés sont le Japon, les États-Unis et l'Europe. Cela montre que l'industrie nationale du batik a une compétitivité compétitive sur le marché international. Gati a également déclaré qu'actuellement, l'industrie du batik est dominée par des PME réparties dans 51 centres à toute l'Indonésie. Le nombre de travailleurs absorbés dans le centre de PME du batik atteint 15 000 personnes. Elle a réitéré qu'elle continuait d'améliorer la compétitivité et la productivité de l'industrie nationale du batik. Les étapes stratégiques à faire sont, entre autres, le programme de l'amélioration des compétences des ressources humaines, le développement de la qualité des produits, la normalisation, la facilitation de la machinerie et de l'équipement, et la promotion et l'exposition. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps pour le programme Magazine Culturel. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à admirer la beauté de l'une des plages situées à Lombok, c'est la plage de Tanjung Aan. L'île de Lombok est célébrée pour ses plages magnifiques, notamment dans la région sud de l'île de Lombok. L'un d'entre eux est la plage de Tanjung Aan. Une chose qui distingue Tanjung Aan avec d'autres plages est son sable qui est rond comme du poivre. La plage de Tanjung Aan est parfaite pour ceux qui aiment plonger en apnée et nager parce que les vagues de cette plage sont assez calmes, dont la profondeur est relativement faible. La plage de Tanjung Aan est entourée de plusieurs collines. Vous pouvez facilement atteindre la colline pour voir depuis les hauteurs de Bellevue sur la plage de Tanjung Aan. Autour de cette plage, vous verrez des parapluies en bois avec la pelle tricotée comme son toit. L'une des façons de profiter de cette plage est de s'allonger sur la parapluie en buvant des eaux de la jeune noix de coco vendue sur cette plage. Si vous avez faim, vous pouvez choisir un restaurant qui propose une variété de plats d'autres régions et aussi des menus de cuisine locale. La plage de Tanjung Aan est située à environ 75 km de la ville de Mataram. Si vous êtes de la ville de Mataram en utilisant des véhicules privés, vous voyagerez environ 1h30 par la route Mataram Cakranegara, Kediri Praya, Batu Nyale Sengkol, Rambitan Sadikuta, et la dernière Tanjung Aan. En plus des véhicules privés, il est conseillé de louer une moto ou bien une voiture de la ville de Mataram parce que les transports publics seront une perte de temps et plus de tracas. Avant de visiter la plage de Tanjung Aan, il y a des choses à préparer. Assurez-vous d'apporter des lunettes de soleil et aussi un chapeau parce qu'il fait très chaud. Et n'oubliez pas de porter le crème solaire. En outre, apportez aussi un changement de vêtements si vous prévoyez de faire des activités nautiques. Il est également conseillé de porter des chaussures confortables de sorte que vous ne serez pas dérangé si vous montez la colline sur cette plage. Et le plus important, n'oubliez pas d'apporter un appareil photo pour capturer la beauté de la plage de Tanjung Aan. Chers amis, n'oubliez pas aussi d'apporter des équipements de plongée et ne vous inquiétez pas car sur cette plage, il y a des locataires d'utiles pour faire du snorkeling. Et le bon moment pour la plongée en apnée est en fin d'après-midi car à ce moment-là, le niveau de la mer va commencer à augmenter. chers amis, nous terminons le magazine culturel aujourd'hui intitulé La plage de Tanjung An. Merci à tous et à bientôt.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Serviteur, bonsoir, voici l'Indonésie en couleur et pour titre, la commémoration du 481. 11e anniversaire de Jakarta à l'île Tidung en résidence des Mille Îles samedi. Pour la première fois, les Mille Îles ont accueilli le lancement de l'anniversaire de Jakarta. Le lancement cette fois est également une arène d'augmenter le tourisme dans les Mille Îles comme l'une des zones stratégiques de tourisme national ou KSPN fixée par le gouvernement. Le lancement est marqué par l'inauguration de l'utilisation du bateau transportant les alimentations pour les résidents des Mille Îles par le gouverneur de DKI Jakarta, Anies Baswedan. Le vice-gouverneur de DKI Jakarta, Sandiaga Uno, a déclaré que l'île de Tidung est choisie comme lieu de l'annonce de l'anniversaire de DKI Jakarta, visant à promouvoir les Mille Îles comme nouvelle destination touristique. Cette promotion vise à attirer les investisseurs intéressés par la construction, tels que les hébergements et les fournisseurs de transport maritime aux Mille Îles. Sandiaga Uno mentionne qu'il y a un certain nombre d'activités dans une série de l'anniversaire de Jakarta, entre autres le festival de musique de reggae et le sommet de l'événement et l'activité d'aquathlon. Commençant l'anniversaire de DKI Jakarta, Sandi a affirmé qu'il y avait plusieurs activités à l'île Tidung Besar et Tidung Kecil, à savoir la libération de jeunes tortues à la libération de graines de poissons. Cette série de célébrations d'anniversaire sur le thème Équitable, Progrès et Heureux, qui décrit les objectifs de développement de Jakarta, est en conformité avec la vision, la mission du gouvernement provincial de DKI Jakarta, à savoir Progrès la ville, heureux son peuple. L'annonce est également menée simultanément à travers l'administration municipale de DKI Jakarta. Les lieux de lancement dans 5 villes administratives de Jakarta sont RPTRA Madusela, le district de Mangga Dua Sud, le centre de Jakarta. À Jakarta Ouest, sur la route de Tomang Raya Jakarta Occidental, devant ZNE, à l'ouest du lac Suntar, au nord de Jakarta. Au parc de Tabe Buya Jagakarsa, au sud de Jakarta, et à l'est de Jakarta, dans la zone d'inondation du canal oriental. Les activités au niveau provincial, il y a 30 activités de célébration, tandis qu'au niveau de la ville et de la résidence, cette activité est soumise à chaque municipalité et résidence. Par exemple, au nord de Jakarta, il y a 61 activités organisées pour célébrer le 481e anniversaire de Jakarta. L'une d'elles est des courses de bateau à Kham au lac Suntar, visant à encourager cette zone d'être une destination excellente du gouvernement provincial de DKI Jakarta. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonjour, bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter des chansons originales de Betawi ou Jakarta dans le cadre de l'anniversaire de la ville de Jakarta le 22 juin 2018. Cette année, Jakarta commémore son 491e anniversaire. Bon, pour commencer notre rencontre aujourd'hui, écoutons une chanson intitulée « Kicir Kicir » chantée par Henny Purwonegoro. Chers amis, c'était une chanson de Jakarta intitulée « Kicir Kicir » chantée par Henny Purwonegoro. Cette chanson « Tuneful » est chantée aussi dans le genre de musique kroncong. Ses paroles sont comme le pantoun. Le pantoun est un quatrain à rime entrecroisé, abi-abi, est une culture qui est également inhérente à la vie des gens de Betawi. Il contient des conseils qui invitent des choses positives ou de la bonté. Non seulement dans le pays, mais Kicir Kicir est aussi connu dans divers pays. Cette chanson est également devenue l'une des chansons nationales qui sont souvent présentées sur des événements internationaux. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Jakarta intitulées Jali Jali, chanté par Farid et Luki Reza.
Ini dia si Jali Jali.
Pergi tiada yang larang. Palinglah enak si orang bujang sayang sayang sayang. Kemana pergi? Kemana pergi tiada yang larang.
C'était la chanson de Jakarta intitulée Jali Jali, chantée par Farid et Luki Reza. Cette chanson est l'une des chansons de Betawi, d'habitude chantée par une femme et un homme. Comme la plupart des chansons provenant de Jakarta ou de Betawi, les paroles de Jali Jali sont une série de poèmes combinés avec la musique joyeuse. La chanson a été développée par les Chinois à travers leur musique traditionnelle Gambang Kromong, qui est ensuite devenue une musique typique de Betawi. Cette chanson a été popularisée par M. Sagi, qui est le chef de l'orchestre Kroncong M. Sagi en 1942. Jali Jali est la chanson folklorique de Betawi. Bon, chers amis, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons intitulées Gado Gado Jakarta, chantées par Fari Firiana et Iris Ketimun, chantées par Teti Supangat. Bonne écoute et joyeux anniversaire de Jakarta.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Di kolong meja, iris
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons de Jakarta ou de Betawi. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.